Le 85e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat en partenariat avec Procivis, Ista, Salvia Développement, Sepia et ACT Commodities du 23 au 25 septembre 2025 sur Radio Imo et Radio Territoria.
Radio Imo, Radio Territoria, il est bientôt 13h. Nous sommes toujours en direct pour cette première journée de l'Union sociale pour l'habitat, le congrès de l'Union sociale pour l'habitat. On va parler de logement, bien évidemment. On va parler aussi de technique, d'énergie. Et là, ce que je vous propose, alors ce n'était pas prévu, et donc je suis très heureux de les recevoir sur le plateau. Je vais vous proposer, les amis, de réinviter à proximité de chez vous, au pied de l'immeuble, de réinviter la nature. Voilà, on va lui dire bienvenue. Bienvenue chez nous. Fini le béton. Alors, le béton, bien évidemment, sans faire trop d'exagération, on en a quand même besoin. Il faut rappeler qu'on a des formules béton bas carbone qui marchent très bien, notamment le béton de champ, par exemple, des choses comme ça. Et je vous propose qu'on respire mieux grâce, justement, aux forêts urbaines, à la renaturation. Je sais qu'on en parle beaucoup sur nos antennes. Et bien, écoutez, ça tombe bien. Je viens de faire connaissance avec une association qui s'appelle la Forêt des Voisins. Ça ne s'invente pas, mesdames et messieurs. Vous aviez la fête des voisins chaque année. Hein, qui, et ben maintenant, on a la Forêt des Voisins, un projet associatif extrêmement ambitieux. Pour en parler, j'ai deux personnes sur le plateau. Bonjour, Daniel Rodari.
Bonjour, merci de nous recevoir.
Coordinateur de l'association également, Doriana Kostic. Merci d'être avec nous. Vous êtes chef de projet sur cette association. On va commencer par vous, Doriana. Si je vous demandais de présenter l'association en 3-4 lignes, qu'est-ce qu'on dirait aujourd'hui ?
Alors, c'est une association qui a vu le jour en 2010, d'ailleurs plutôt sous l'apanage de Daniel, et qui a d'abord fait des projets de reforestation à l'étranger. Et depuis 2023, eh bien, on s'est rencontrés en fait avec Daniel alors que j'étais encore en poste à Pleine Commune Habitat, puisque je cherchais dans le cadre du plan Ambition Environnement, qui est le plan climat en fait du bailleur, à trouver des partenaires pour renaturer nos espaces verts, qui, comme bon nombre d'espaces verts dans le logement social, en fait ont des grandes pelouses avec quelques arbres et des arbustes de temps en temps. Mais pas grand-chose de plus. Et notre conviction, c'est que ben voilà, en 2040, il faut qu'on ait vraiment des logements sociaux, notamment dans les QPV, mais pas que.
Alors, quartiers prioritaires de la ville.
De la ville, voilà, exactement, qui soient très verts, très denses, pour pouvoir lutter contre les effets d'îlots de chaleur pendant les canicules qui vont s'accélérer, mais aussi pouvoir réaborder la biodiversité en milieu urbain et aussi faire en sorte que nos logements, nos locataires soient heureux de pouvoir passer du temps dehors, jouer, regarder la nature, les enfants puissent être connectés à la nature qui aujourd'hui fait beaucoup défauts.
Vous avez créé cette association, Daniel. Vous n'étiez pas seul, certainement. Vous étiez bien sûr un collectif. Faites-moi, justement, on va reprendre sur l'actualité, mais la genèse aussi de l'association. Pourquoi vous avez créé cette association pour renaturer, pour reforester, finalement, dans des pays? Alors, vous êtes allé en Haïti, vous êtes allé un peu partout dans le monde. Comment ça vous est venu? C'est quoi l'histoire, votre histoire qui vous a amené à faire ça?
Alors, l'histoire de l'association est étrange parce qu'on a commencé par faire du biomimétisme qui commence à être un peu plus connu. Donc, l'inspiration, l'innovation inspirée de la nature. Et moi, j'ai dirigé la branche qui s'intéressait aux arbres. Il y a beaucoup de choses, aux arbres et aux plantations. Il y a du biomimétisme beaucoup plus technique que l'association a aussi développé, qui maintenant s'est développé dans des associations et des compagnies amies. Mais nous, on a continué sur les arbres. Et là où ça intervient dans le projet, c'est qu'en fait, si vous imaginez n'importe quel ensemble urbain et que vous laissez passer du temps, la jungle va se réinstaller. Pas la jungle, mais la forêt, des grimpantes, des couvre-sols, etc. Ouais. Et avec le biomimétisme, on peut imaginer ça et l'accompagner et le rendre compatible avec nous quand même. Donc on ne veut pas que notre habitat se dégrade complètement sous le poids de la végétation, mais on peut inviter beaucoup plus de nature, même en ville, même dans des endroits où on n'a pas l'habitude.
On peut cohabiter avec les deux. Alors c'est intéressant parce que, vous savez, les images sont parfois puissantes. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'un film qui s'appelait « L'armée des douze singes ».
Si, oui.
Voilà, c'est intéressant l'armée des doux-singes, parce que quand l'humanité est confinée sous terre parce qu'il y a un virus qui tue que les humains, mais pas les animaux. Mm-hmm. Et quand on sort sous terre, on voit dans la ville de New York les arbres, les animaux, les lions, les ours, etc. Finalement, la nature, elle a horreur du vide, c'est-à-dire qu'elle se réinstalle dès qu'elle peut, hein, finalement. Mm-hmm. Et donc le chemin de la vie, il est extrêmement intéressant. Est-ce qu'on peut faire cohabiter les deux modèles ?
On peut déjà beaucoup plus, enfin, la quantité de nature, si on peut dire ça comme ça, pourrait être largement plus grande en ville. Et on se rend compte de ça de plein de manières, et même des gens très du côté technique, par exemple le lierre, qu'on a arraché des murs avec application pendant très longtemps.
Ah oui, oui.
En fait, on se rend compte que c'est une protection.
J'ai un problème justement avec le lierre chez moi, je peux vous dire que...
Ah, ça arrache les tuiles,
oui.
Donc ça c'est un problème, il faut le couper avant d'arriver au toit, mais sur un mur en briques, c'est bien le lierre en fait, ça protège votre mur en briques. Ça le protège l'été de la chaleur et l'hiver du froid. C'est une peau naturelle sur une maison qui s'installe toute seule.
Bien sûr.
Et qui n'abîme pas la maison.
Mais il faut que ce soit en brique, et si c'est du béton ?
Non, en brique, en béton, n'importe quoi. En fait, les crampons du lierre ne sont pas dommageables à la structure. Et le lierre fait une espèce de peau à 10 cm du mur qui en plus nourrit les abeilles à un moment où il n'y a pas grand chose d'autre. Si vous avez un mur en lierre, il faut écouter ça au printemps. Il y a des trucs incroyables.
Daniel, vous êtes une bénédiction. J'adore. Non, mais je viens d'apprendre quelque chose.
Eh ben, en fait, moi, je l'ai vécu. Vous voyez un mur en lierre et vous entendez les abeilles. En fait, elles sont en dessous, en train de butiner les fleurs de lierre, ce qui n'est pas un truc super connu. Et en fait, à ce moment-là, c'est une de leurs sources de nourriture essentielles.
Eh bien, écoutez, je vous promets que je ne coupe plus le lierre de ma maison, c'est promis.
Il faut quand même qu'il arrive pas jusqu'au
toit. Alors, par contre, on évite qu'il arrive sur le toit, mais voilà, j'apprends quelque chose. Moi, je trouve ça absolument formidable. Vous avez quelle formation, vous, Daniel ?
Moi, je suis écologue.
Et donc toujours orienté sur la nature. Qu'est-ce qui fait que vous êtes arrivé à développer le concept de la forêt des voisins ici à Paris, en France plus exactement ?
Alors, c'est...
Cette nouvelle orientation,
si Oui, je comprends bien. C'est une réflexion sur le fait qu'il y en a besoin en fait, autant en France qu'ailleurs. Et qu'on s'est longtemps concentré sur des pays comme Haïti et le Mexique, des endroits où bon, tout le monde peut concevoir qu'il y a des besoins suite à la déforestation, etc. Mais en fait, en particulier dans les quartiers des villes qui n'ont pas forcément des gros moyens pour la revégétalisation, il y a un besoin énorme dans les habitats denses. En fait, il faut penser au nombre d'habitants par kilomètre carré. Si vous en avez beaucoup plus dans un endroit où il y a par exemple beaucoup de logements sociaux, il faudrait que la végétation soit beaucoup plus dense qu'ailleurs. Ce n'est pas juste du paysagisme.
Où est-ce qu'on trouve l'espace ? Est-ce qu'on casse le parking, comme le font les hypermarchés, ils débitument ?
Est-ce que les cours
d'école, ils deviennent des oasis ?
Absolument.
On a déjà travaillé sur des projets là-dessus. Moi, je trouve ça extraordinaire, même pour la pédagogie, pour les enfants. C'est ça ?
On fait ça et...
Il y a de la ressource, vous voulez dire ?
Oui, il y a de la ressource et il y a aussi de la ressource... au niveau conceptuel, c'est-à-dire qu'on voit des endroits et on se dit qu'il n'y a pas de place, il n'y a pas moyen, c'est trop petit. Et en fait, pour un renard, c'est largement assez grand. Et on peut vivre avec le renard. Enfin, il peut venir là où on vit et on ne l'imagine pas. Et on peut densifier du végétal incroyablement. Il y a un nombre d'animaux sauvages qui viennent dans les villes qu'on ne soupçonne pas.
Exemple ?
Des renards, des blaireaux, des sangliers. Dans Paris ?
Des belettes.
Les sangliers, on les avait vus pendant le confinement. Vous vous rappelez cette image ?
Oui, on les a vus parce qu'ils sont dans sortis un peu plus, oui. Mais en fait, ils sont quand même là, même quand il n'y a pas le confinement.
Et c'est pas dangereux ?
Non, c'est marginal, je dirais.
Non, et puis ils sortent surtout la nuit, donc
oui.
Ça va.
Oui. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut travailler la pédagogie.
Absolument, oui.
Parce qu'en fait, dans ce que vous dites, il y a quelque chose qui est évident dans ce que vous dites. On ne peut que y souscrire. Mais dans le développement, on se dit, attendez, vous êtes bien gentil. Parce que vous dites à quelqu'un qui est dans une copropriété de logement social, il y aura peut-être des renards ou des sangliers. Il va un peu flipper quand même pour le moment. Voilà.
Non, mais ça, en fait, les gens n'y pensent pas. C'est vrai
ils n'y pensent pas.
Voilà, on le remarque parce que en discutant avec des gens, notamment, il y a certaines personnes un peu... qui n'arrivent pas à dormir la nuit, qui se baladent dans les cités le soir et qui nous disent « Ah, mais j'ai vu des belettes, etc. » Voilà.
C'est une vision très poétique pour décrire la vie des...
Mais c'est une expérience vécue. Bon. Hein.
Ça, j'adore.
Cette personne-là, elle connaissait la vie sauvage.
Leur
insomnie.
Je préférerais finalement... Qu'on dise les choses comme ça. Il y a un sujet aussi important dans ce que vous faites, et je trouve ça absolument formidable. En plus, vous êtes cadré dans une association qui est reconnue, je le rappelle, d'utilité publique, hein, je crois, ou d'intérêt général. D'intérêt général, qui permet d'ailleurs de défiscaliser aussi, d'être subventionné, bien évidemment. Donc vous avez un modèle qui est vertueux, qui est un modèle très coopératif et très social. C'est celui de l'agriculture urbaine. On en parle beaucoup. J'aimerais que vous remettiez un petit peu le campanile ou l'église au milieu du village, pour ceux qui croient ou qui ne croient pas. C'est de dire, est-ce que l'agriculture urbaine est une ressource réelle pour l'alimentation en ville ou pas? Parce que j'ai calculé que si l'agriculture urbaine était développée un petit peu au rythme qu'on peut imaginer, elle couvre à peine 2% des besoins. Donc c'est quoi? C'est un mythe?
Non, on plante des plantes nourricières, du fruitier, surtout du fruitier.
Ah bon?
Oui, oui. Potager dans des bacs, la pollution des sols. Planter des légumes feuilles, etc., directement dans les pelouses, il faut faire beaucoup d'études et en général, ça va pas être sans risque. C'est des tout petits risques, mais...
Je comprends.
Mais on plante du fruitier qui,
risque sanitaire, vous voulez dire.
Mais tous les arbres fruitiers, tous les petits fruitiers, framboises, cassis, etc., on peut y aller. Et on dit tout de suite que c'est pas pour se nourrir. Ça suffira pas. Surtout dans des endroits où l'habitat est dense, donc des logements sociaux.
Donc la mythologie qui consiste à dire que l'on va en proximité, en circuit court, s'alimenter parce qu'on a de l'agriculture urbaine, c'est quoi? C'est une imposture ou...
C'est pas possible de nourrir les villes sur l'empreinte des villes. Non,
d'accord.
Avec la densité de Paris, par exemple.
Doriana, donc le circuit court, c'est plutôt, par exemple, je prends la Picardie qui est à proximité de Paris, ou la Beauce, par exemple, qui alimente en céréales la grande ville de Paris, on est d'accord.
Oui,
c'est ça, le circuit court. C'est pas le jardin d'à côté,
non.
Lequel il y a un compost qui va permettre d'avoir de la salade.
Non, c'est plutôt une consommation et des activités de loisirs, j'ai envie de dire, pour maintenir la convivialité.
Oui. On peut manger des fraises ou des framboises, il n'y a pas de problème. Ce que je veux dire, c'est que, parce que vous savez que ce discours, souvent, se balade en disant que l'agriculture urbaine peut permettre, effectivement, en proximité, etc.
Après, faudrait voir après la densité. On va dire sur la région parisienne, c'est compliqué, mais il faudrait étudier les choses dans d'autres... dans d'autres agglos, j'ai pas la vision.
Est-ce que l'hydroponie, vous connaissez l'hydroponie, on en parle beaucoup en ce moment comme des ressources intéressantes, notamment sur tout ce qui est toit-terrasse, par exemple, sur lequel on peut faire pousser. Alors là, pour le coup, on peut faire de la salade, on peut faire des... Comment vous appelez ça? Des
légumes-feuilles.
Voilà, des légumes-feuilles. Est-ce que c'est quelque chose qui... Il y a des pays, comme Singapour, comme d'autres, qui ont beaucoup développé ces systèmes d'hydroponie. Est-ce que ça pourrait être aussi un des éléments qui se développerait dans les copropriétés ou pas?
Pas par moi, en tout cas.
Non, mais sur le modèle.
Non, l'hydroponie, c'est énormément de technologies pour faire pousser des plantes qui savent très bien pousser dans des sols. Et on peut faire des sols légers qui sont très proches de l'hydroponie. Et les plantes vont pousser là où elles sont faites pour pousser, c'est-à-dire par 4 milliards d'années d'évolution, c'est dans du sol.
Ouais.
Donc moi, les plantes qui poussent dans l'eau, je ne suis pas fan, ça marche, mais je ne sais pas ce qu'on mange.
Bon, ça le mérite d'être clair. Donc maintenant, on a bien compris que l'activité de ce que vous appelez la forêt des voisins, d'ailleurs, pourquoi vous l'avez appelée la forêt des voisins?
Parce qu'il y a une dimension sociale très importante.
D'accord.
C'est du participatif.
Voilà.
On essaye de travailler avec les habitants dès le début. Et en fait,
ils viennent couper.
Ils viennent planter. C'est l'idée.
Ça, c'était vraiment c'était une grosse interrogation initialement. En tant que bailleur, on se demandait comment est-ce que les habitants allaient prendre ça. Et au final, on a été vraiment surpris de l'engouement qu'il y a pu avoir. Alors, bien sûr, il y a toujours plein de questions aussi de finalement, est-ce que ça va ramener des moustiques? Qui va s'en charger? Mais finalement, les enfants, ils vont détruire les plantations. Enfin, il y a toujours ce genre de frein-là, des questionnements, mais c'est normal. Et ça pousse à améliorer le projet, dans tous les cas. Mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup de soutien. Alors après, plus ou moins actif. Souvent, c'est des gens qui nous disent c'est super ce que vous faites, merci. Et puis d'autres, surtout quand il y a des enfants, en fait, des familles avec les enfants, là, ça fait un carton, c'est impressionnant.
Oui, en plus, c'est un loisir qui coûte rien, puisqu'il est à proximité.
Et on a fait attention aussi de maintenir des espaces aussi de pelouse pour qu'il puisse y avoir les pique-niques, les jeux.
Alors, justement, en préservant les pelouses contre les déjections animales, notamment, pour les chiens, etc. Parce que parfois, c'est quand même pas tout à fait agréable. Les îlots de chaleur sont un vrai sujet urbain. Les tests ont démontré que dans les oasis, vous en faites aussi des oasis pour les écoles ou pas ?
Pas encore fait, mais c'est...
Alors, c'est génial, c'est formidable. Oui, c'est vous savez quelle est la variation en température ?
Ah, c'est plusieurs degrés. Hein.
Mmh. On est entre 4 degrés, hein. Et 7 degrés.
Ah, oui.
Mais 7 degrés, ça change tout.
Ça change tout.
Ah, oui.
Ça change tout. Sans compter, c'est le bien-être, notamment la sensation de fraîcheur que l'on a à l'ombre. Par exemple d'un arbre ou d'un îlot qu'on a construit sans y ajouter un effet très important qui est celui du jeu, du plaisir qu'ont les enfants dans une cour d'école qui était quand même un vecteur de chaleur. D'ailleurs, on a tous en mémoire des cours d'école où l'été on ne pouvait pas y aller parce qu'il faisait trop chaud, par exemple. Et je trouve ça extrêmement intéressant. Vous avez des enjeux aussi, vous l'avez dit, des impacts sociaux. C'est le fait de créer du lien social. Est-ce que, à l'instar de ce que vous venez de nous dire, vous avez fait la démonstration que cet outil-là permet également d'avoir une meilleure cohésion sociale, et Dieu sait qu'en ce moment, la cohésion sociale, on en a quand même dans notre pays bien besoin. Doriana.
Oui, par exemple, sur la cité des cosmonautes à Saint-Denis, il y a un groupe de mamans qui s'est réuni et qui a vraiment pris appui sur ce projet-là pour se souder et proposer des activités régulières aussi en lien avec l'école. Enfin, voilà, il y a eu comme une graine en fait qui a germé, qui a dépassé même le projet, puisque l'école s'est emparée aussi du sujet, a demandé à avoir des bacs au sein de la cour, tout ça. Donc il y a eu vraiment comme une porosité.
Est-ce que vous faites du compost ou pas ? Des composts ?
Non,
on n'a pas fait sur ces projets-là, mais c'est intégrable.
Alors une question, et je vais devoir en l'antenne, mais est-ce que c'est vrai ce qu'on dit sur la vitalité des abeilles et de la vitalité des abeilles, des ruches urbaines, qu'elles se porteraient mieux en zone urbaine, parce qu'il y a moins de pesticides, c'est vrai ou c'est
pour c'est moi c'est vrai, mais je suis pas un spécialiste. D'accord. Mais oui, c'est vrai. Oui,
d'accord. Techniquement, oui, parce qu'il y a études très sérieuses qui ont été menées dans lesquelles les abeilles trouvent un refuge. Paradoxe, hein.
Dans les villes. Oui.
Paradoxe quand même. Hein. On respirerait parfois mieux en ville et la qualité du sol serait meilleure parce qu'il y a moins de pesticides. Vous confirmez l'idée qu'il y a moins de pesticides ?
Il y a moins de pesticides, c'est sûr. La qualité des sols, c'est autre chose.
Bon, alors la qualité des sols, c'est autre chose, mais on a aussi, dans l'agriculture, tous les habitants qui ont leur petit balcon avec les jardinières. Et tout ça aussi concourt bien évidemment.
Ça participe parce que par exemple là on a planté 2500 arbres, arbustes et buissons, 60 espèces différentes. Donc c'est vraiment des jardins incroyables, d'une incroyable biodiversité.
Y a moyen de faire des images.
Voilà, exactement.
On va venir.
Tout à fait. Avec plaisir.
Je vais venir, je vais vous appeler, je vais venir faire un reportage en images. Et vous allez me montrer tout ça.
Exactement.
D'accord, à condition que je puisse manger des framboises. Voilà.
Il faut venir au bon moment.
Voilà, pour venir au bon moment, vous avez raison.
Un des intérêts, c'est que les enfants, ils commencent à repérer moment.
J'ai planté des citrons dans mon jardin, un petit jardin, tout petit jardin. Et les citrons, ils sortent en ce moment, c'est la période. Voilà. C'est hyper agréable de voir. De pousser.
Ils sont bien meilleurs que les autres.
C'est exactement ça qu'on cherche à faire, en fait.
Mais oui, je fais mon basilic, fais ma petite menthe.
Et en fait, c'est pas du tout la même chose que ça, de trouver des framboises ou de retrouver les framboises qu'on a plantées. On a planté les framboisiers. Donc là, il y a des gamins.
J'adore.
Qui peuvent retrouver le framboisier qu'ils ont planté et voir qu'ils donnent des framboises 6 mois plus tard. Et ils vont faire la même chose avec des arbres.
Et ils grandissent en même temps, d'ailleurs, que le framboisier, bien évidemment.
Les enfants aussi mettaient des étiquettes avec plantaient des étiquettes avec leurs prénoms, et donc c'était quelque chose de fort.
Il y avait des adoptions d'arbres et de plantes.
Adopter des arbres, en prendre soin.
Le nerf de la guerre, c'est l'argent, puisque bien évidemment tout ça, il faut le financer. Vous parlez d'un montage financier qui allie des fonds privés et d'un dégrèvement de taxes. Donc le bailleur utilise un dispositif de dégrèvement de la taxe foncière qu'on appelle la TFPB sur les sites en quartier prioritaire qui permettent effectivement de déduire les coûts du chantier bien évidemment participer à l'élaboration de ces projets. Les bailleurs sociaux aujourd'hui sont aussi prioritaires. Ils vous accueillent comment ?
Avec intérêt, on espère bien.
Voilà. Non, mais pour l'instant, ça passe plutôt bien.
Oui. Ça, c'est vraiment quelque chose de très... initialement, qui a été une expérimentation, qui a porté ses fruits, à tel point que là, le bailleur a souhaité qu'on continue sur 3 autres sites, dont un, on va faire de la débitumisation pour celui-ci. Donc voilà, on va aller à un stade supérieur puisqu'on va retirer une partie de l'asphalte et replanter.
Eh bien écoutez, on avait décidé de faire un petit focus sur votre action. Merci pour ce que vous faites. Je vais donner l'adresse URL, je vais demander à notre ami Jason de le mettre sur le podcast de l'émission www.forêtaupluriel.org. Voilà, oui, oui, c'est Théo. Jason, Théo, appelle-moi Georges, voilà. Non, je déconne. Voilà, t'oublie pas, donc www.forêtcommune.org. On peut s'adresser directement également à vous, Daniel Rodari, et à vous, Doriana Kostik. Je vous rappelle que vous êtes chef de projet, et vous, Daniel, le coordinateur de cette association Longue Vie à Forêt des Voisins. Et je pense que vu le marché que vous avez aujourd'hui, l'immensité du défi, on ne peut que vous soutenir. D'ailleurs, on vous fera venir dans notre émission, bien évidemment, pour parler de ce formidable projet. Voilà, il est quasiment 13h20. On va se retrouver tout à l'heure pour la suite de nos émissions. Une petite pause et on revient.
Le 85e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat en partenariat avec Procivis, Ista, Salvia Développement, Sepia et ACT Commodities du 23 au 25 septembre 2025 sur Radio Imo et Radio Territoria.